RFI.
RFI, il est 19h à New York et à Washington, 23h en temps universel et minuit ici à Paris. Bonsoir Jérôme Bastion, c'est à vous pour le journal.
Merci Sylvie Berruet, bonsoir à vous et bienvenue à vous toutes et à vous tous sur la Radio du Monde pour ce nouveau point sur l'actualité de notre planète. Au sommaire de cette édition, il avait été 45e président des États-Unis. Il sera également le 47e chef d'État de la plus grande démocratie du monde dans 2 mois. Donald Trump a remporté largement le scrutin de mardi face à Kamala Harris et s'est félicité de ce rare comeback. Quant à la candidate démocrate, malheureuse, elle a tardivement reconnu sa défaite et promis de faciliter le transfert du pouvoir, appelant ses partisans à continuer à se battre, mais son échec cuisant traduit l'absence de stratégie de son parti. Et puis le vote américain ne fait pas vraiment l'affaire de Bruxelles, où l'on craint que les choix à venir du président Trump, notamment en matière de sécurité, ne déstabilisent l'Union européenne, qui craint de se voir fragilisée et cherche à s'émanciper de Washington. L'élection de Donald Trump aura finalement été plus large que prévu avec, selon un dernier décompte, 295 grands électeurs contre 226 à Kamala Harris. C'est en remportant l'État du Wisconsin que le candidat républicain a dépassé le seuil fatidique des 270 grands électeurs, autrement dit la majorité absolue. Ce fut donc l'épilogue d'une campagne présidentielle tout à fait hors norme, avec un président sortant, Joe Biden, contraint de se retirer pour laisser la place à sa vice-présidente Kamala Harris face à un revenant, l'ancien président élu en 2016 puis battu en 2020 et qui au cours de la campagne a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. Un comeback historique donc, comme Donald Trump l'a dit à ses partisans en milieu de nuit en Floride, dans son style bien à lui, écoutez-le.
Nous avons un pays qui a besoin d'aide, qui a cruellement besoin d'aide. Nous allons réparer nos frontières. Nous allons tout réparer dans le pays. Et c'est pour cette seule raison que nous sommes entrés dans l'histoire. Nous avons surmonté des obstacles que personne ne pensait pouvoir surmonter. Et c'est clair maintenant que nous avons réussi à réaliser la journée politique la plus incroyable. Mais regardez ce qu'il s'est passé. Est-ce que c'est pas fou? C'est une victoire politique que notre pays n'avait jamais vue auparavant. Rien de tel. Je veux remercier le peuple américain pour l'immense honneur d'avoir été élu le 47e et le 45e président des États-Unis.
Quant à Kamala Harris, elle aurait pu devenir la première femme présidente de l'histoire des États-Unis, mais vous le savez, les électeurs américains en ont décidé autrement en élisant son rival républicain. Analyse des étapes successives qui ont fragilisé ses chances d'accéder à la Maison-Blanche avec Yelena Tovitch.
Déficit de notoriété, campagne éclair, programme flou, incapacité à reconquérir un électorat de la classe ouvrière blanche, ni à garder l'avantage sur le vote des femmes et des minorités de couleur, les erreurs de stratégie du camp démocrate sont multiples face à des adversaires mieux préparés autour d'un programme plus concret, axé sur l'économie et l'immigration, et qui ont démontré leur capacité à faire déplacer les indécis aux urnes. L'équipe sortante a donc failli sur plusieurs plans, à commencer par l'abandon tardif de Joe Biden et l'entrée en lice de Kamala Harris sans passer par la case des primaires, ce qui lui a valu un manque de légitimité dans une partie de l'électorat démocrate. Autre pari raté, l'incapacité du camp démocrate à s'unifier derrière un programme clair. La campagne a davantage consisté à faire du scrutin un référendum anti-Trump que de se préoccuper du sort des classes populaires, là où le camp républicain a conduit une stratégie de mobilisation des abstentionnistes à travers un programme populiste. La politique de soutien à Israël de l'administration sortante a également joué en leur défaveur. Donald Trump a lui promis de mettre fin à ce conflit sans expliquer comment.
Yelena Tomic du service international de RFI. Le républicain qui a, d'après son équipe en tout cas, rappelé la nécessité d'unifier le pays lors d'un échange téléphonique avec Kamala Harris. Donald Trump a également reçu les félicitations de Joe Biden, qui a invité le milliardaire à la Maison Blanche, et de Barack Obama aussi, qui avait en son temps été président des États-Unis. Pour le camp démocrate. Quant à Kamala Harris, eh bien, elle a décidé d'aider Donald Trump dans le transfert du pouvoir. Et elle a dit à ses partisans qu'il était nécessaire d'accepter les résultats de cette élection, mais de continuer à se battre également. En Europe, Viktor Orban a salué la victoire de Donald Trump, une victoire pour le monde, a-t-il dit. Le Premier ministre hongrois avait déjà félicité Donald Trump avant sa victoire confirmée. Même tonalité, même empressement de Robert Fico, le Premier ministre slovaque, qui se félicite de la défaite des idées libérales et progressistes. Au nom des 27, par contre, le président de la Commission a adressé ses chaleureuses félicitations à l'élu américain. De Paris, le Premier ministre français a mis en garde les Européens contre le chacun pour soi et plaidé pour une stratégie européenne coordonnée, car Bruxelles s'inquiète, Pierre Benazet.
Les populistes européens peuvent se réjouir, selon l'eurodéputé écologiste allemand Daniel Freund, pour qui l'UE s'est mal préparée à ce scénario.
Ça fait vraiment peur pour la situation en Ukraine, pour la sécurité pour nous, au sein de l'OTAN, dans l'Union européenne, aussi pour notre commerce avec les États-Unis. Et il faut dire que depuis que Trump a quitté la Maison-Blanche, on n'a pas fait notre travail. On a tous espéré que ça va être Harris qui va gagner. Et maintenant, on est là et on ne s'est pas préparé à un deuxième mandat Trump.
Pour l'eurodéputée française Nathalie Loiseau, l'Europe a été aveugle, mais elle est capable de rebondir. Au Parlement européen, nombreux sont ceux pour qui la réélection de Donald Trump doit servir d'électrochoc.
Cette élection américaine doit pousser les Européens à faire beaucoup plus pour s'affirmer eux-mêmes en tant que puissance. On en a les moyens. Maintenant, il faut qu'on en ait la volonté. On ne peut pas passer tous les 4 ans une nuit blanche à se demander ce qui va nous arriver. Il y a eu du temps perdu, mais il y a eu des choses de faites. Sur l'Ukraine, on n'a pas dépendu à 100% des États-Unis, on s'est mobilisé.
Nombreux sont ceux pour qui la réélection de Donald Trump doit servir d'électrochoc aux Européens. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Le retour de Donald Trump, il faut le dire, était le scénario redouté par les dirigeants des institutions européennes qui craignent notamment un désengagement des États-Unis en Ukraine. L'ouragan Raphaël, classé en catégorie 3 sur une échelle de 5, a touché mercredi l'ouest de l'île de Cuba. L'île qui est plongée dans le noir en raison de l'effondrement de son système électrique causé par les vents. La crise politique qui couvait depuis quelques mois en Allemagne a fini par avoir raison de la coalition au pouvoir. Ce mercredi, en fin d'après-midi, le chancelier allemand Olaf Scholz avait convoqué une réunion de crise pour tenter de trouver une solution au blocage au sein du gouvernement sur la politique économique à mettre en place. Réunion tendue qui s'est terminée par l'annonce du limogeage de Christian Lindner, le président du Parti libéral qui occupait le poste de ministre des Finances dans ce gouvernement. Gouvernement tripartite. À moins d'un an des élections législatives, Olaf Scholz a annoncé qu'il posera la question de confiance aux députés le 15 janvier prochain. Romain Lemarisquier.
C'était la réunion de la dernière chance pour tenter d'éviter la fin de la coalition gouvernementale. L'urgence était de mise. Il fallait trouver un accord entre les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz, les écologistes et les libéraux, c'est-à-dire les trois formations au pouvoir, afin de fixer les objectifs du pays en matière économique. Car l'Allemagne est en récession et cela pourrait continuer en 2025. Et si le chancelier allemand pensait que l'élection de Donald Trump aux États-Unis pouvait resserrer les rangs de sa coalition, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Christian Lindner, le ministre des Finances, les patrons des libéraux qui réclament un changement de cap économique inenvisageable pour les sociaux-démocrates, a proposé de convoquer des élections anticipées début 2025. Une trahison pour Olaf Scholz qui a expliqué en conférence de presse qu'il n'y avait plus de confiance suffisante pour continuer à travailler avec Christian Lindner et le FDP, c'est-à-dire sa formation. Le chancelier a donc décidé de le limoger. Il a également annoncé qu'il allait demander la confiance aux députés allemands le 15 janvier prochain pour tenter de finir cette législature. Et si d'aventure il n'obtient pas cette confiance, il pourrait alors convoquer des élections anticipée en mars prochain.
Merci Romain Le Maresquier. A noter que le Parti libéral allemand a annoncé que tous ses ministres allaient quitter le gouvernement de coalition d'Olaf Scholz suite au limogeage du ministre des Finances Christian Lindner. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. RFI Paris, minuit 10.